16h-17h, Carl Zéro sur Europe 1.
Oh, mais c'est pas vrai.
Ça fait quand même une surprise, non?
Bonjour à tous et surtout à toutes, car aujourd'hui nos auditeurs garçons peuvent aller s'occuper ailleurs. Il y a sûrement du bois à rentrer, du gazon à tondre ou le sèche-linge qui déconne encore. Allez, zou, on va bricoler les garçons. Ou plutôt non, restez. Vous risquez d'en apprendre sur les femmes, les vraies, puisqu'aujourd'hui, en fait, de tonton flingueur, Carl Zéro est entouré de deux tata flingueuses. Voici donc en stéréo son Dolby Féminix des studios d'Europe numéro 1, Carl Zéro et ses drôles de dames.
Mes chers amis, mes bien chers compatriotes, quel plaisir d'être avec vous. Vous avez un point commun. Deux grandes reporters qui sont venues m'entourer admirablement aujourd'hui. Et ce point commun, c'est l'adrénaline. Car le reportage, c'est une drogue dure et forcément, quand on n'est pas dans l'action, sur le terrain, en pleine investigation ou sous les bombes, on ressent un manque. Sauf ici, évidemment, sur Europe numéro 1. Car pour jouer aux tata flingueuses, il faut la même dose d'adrénaline et de culot. Une hola pour mes deux Rouletabille, Anne Niva et Martine Laroche.
Alors, vous êtes ici, mes chers tatas, pour répondre à toutes sortes de questions de la première importance, afin de nous aider à réduire la fracture sociale.
Parce que c'est essentiellement ça. Questions débiles.
D'accord. C'est notre objectif chaque jour. Pour cela, l'une d'entre vous représentera la France d'en haut et l'autre... cette imparable France d'en bas, afin de les avoir réconciliés en fin d'émission.
En même temps, rassurez-vous, si vous n'y parvenez pas, pas d'angoisse. Personne ne vous en voudra, puisque personne n'a réussi. Regardez, Chirac, il n'y est pas parvenu. Et aujourd'hui, tout le monde l'aime quand même. Place à Nissa au tirage au sort.
Oui, c'est Martine Laroche-Joubert qui va procéder au tirage au sort et décider de son sort. Voilà.
Alors, France d'en haut ou France d'en bas ?
France d'en haut.
France d'en haut, pour toi Martine.
Ah bah c'est bien.
Est-ce un bon choix? Pour toi, France d'en bas, Anne Niva. Alors, Martine, puisque tu représentes la France d'en haut, si tu triomphes...
Mais qu'est-ce que ça veut dire, la France d'en haut?
Tu vas voir. C'est pas le même lot, en fait. Il y a deux lots différents, suivant que tu sois France d'en haut ou France d'en bas. Si tu triomphes à l'issue même, de ce jeu que je sens palpitant, tu iras dormir, Martine, chez un confrère... Antoine de Maximy. Et oui, tu ne rêves pas, le célèbre globe squatter en chemise rouge, présentateur de l'émission culte J'irai dormir chez vous, dont tu entends le générique en ce moment, t'invite à passer la nuit avec lui, en tout bien tout honneur, enfin normalement.
Mais où ça?
Eh bien chez lui. Il a lancé une campagne de crowdfunding pour financer son premier long métrage de fiction intitulé J'irai mourir dans les Carpates. Et il a déjà collecté 115 000 euros. 10 contributeurs seront tirés au sort pour aller dormir chez l'animateur. Tu seras la 11e. Martine, et on t'applaudit. Une réaction? Tant de bonheur d'un seul coup, ça doit faire drôle, non?
Dormir dans les Carpates, non, j'ai pas tellement envie.
Mais il ne vit pas dans les Carpates.
Du côté de Dracula, tout ça, non.
Bah, il a un petit gars avec sa chemise rouge, Maximy. Tu l'aimes bien, ce Maximy, d'ailleurs?
Je préférerais, je sais pas, en Asie, en Amérique du Sud.
Ah, je croyais un nazi. Eh bien, nous avons le docteur Mengele en ligne. Merci, Martine. Alors toi, tu joues pour la France d'en bas, tata, Anne Niva.
Oui,
alors ton cadeau, évidemment, est moins glamour. Si tu gagnes ce quiz, tu partiras à Ferrières-la-Grande pour rejoindre 6 résidents de l'EHPAD La Pierre Bleue.
Tu sais, c'est à peu près ce que je fais tout le temps.
Ah bon?
Ça ne me changera pas de mon quotidien.
Eh bien, les résidents répètent depuis plusieurs semaines pour participer à un prestigieux Danse avec les stars local. Ils sont âgés de 65 à 103 ans, valides ou en fauteuil, et guidés par les soignants et même par le cuisinier. Ils s'apprêtent à danser le tango, le rock ou la valse. Alors, avec son chapeau de paille sur la tête et son boa rouge autour du cou, André. André, 98 ans, par grande favorite. Elle lève déjà un bras en rythme et attend. Attends qui? Attends Anne Niva pour former le binôme pour danser. Et elle a choisi, bien entendu, le tube de Jeanne Calment, la farandole.
La farandole.
Oh là là.
Ah, tu savais que Jeanne Calment, avant de nous quitter,
avait fait un tube.
Oui. Ouais. La Farandole.
Elle a fait un album entier.
Un album, on vous le remet.
Ouais. La Farandole.
Ça, c'est bon. C'est bon, la Farandole.
Alors, Karl, avant que le match ne commence entre nos deux grandes reporters aujourd'hui, je vous parle de leur activité et de leur actualité. Anne Niva, vous êtes grand reporter, reporter de guerre, prix Albert Londres en 2000. Anne Niva, vous êtes à la tête du magazine Dans quelle France on vit ? C'est sur RMC Story. Et il ne faut pas manquer le prochain numéro. C'est un inédit. C'est ce soir à 20h55 sur RMC Story. Dans quelle France on vit ? Spécial sexe vers de nouvelles libertés. En fait, dans ce quatrième numéro, Anne Niva, vous vous interrogez sur les nouvelles liberté sexuelle, et c'est une thématique assez taboue.
Absolument. Dans ce nouveau numéro, tu as recueilli, Anne, des témoignages de personnes d'âges différents, de milieux différents, et ils te racontent leurs petits secrets.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les grands sujets de société. Et le sexe est un grand sujet de société.
Quel est le rapport entre le reportage de guerre ou le reportage sur des...
Mais pourquoi diantre aurait-il...
Poser cette question, mais c'est vrai.
Y aurait-il un rapport ?
Mais je sais pas, est-ce que quand on est reporter de guerre, pendant la guerre, les gens font l'amour ?
Ah oui.
Bah, ils devraient se concentrer sur la guerre.
Et bah justement, au contraire, ils veulent l'oublier.
Ils veulent oublier la guerre.
Mais bien sûr.
Faites l'amour,
premièrement,
pas la guerre.
Ils veulent l'oublier. Et deuxièmement, justement, ils font des enfants. Parce que souvent, c'est prouvé que les périodes, il y a un taux de natalité qui reprend quelques mois plus tard. Parce que les gens ont peur de mourir, ont peur de, que leur peuple disparaisse, etc. Je parle des guerres où j'ai été, les Tchétchènes. Les... Et là, donc, du coup, il y a une hausse de la natalité.
Mais souvent. Ganesh est un enfant de la guerre que la France a fait à La Réunion.
C'est très important.
Une trentaine d'années.
Martine Laroche-Joubert, vous avez publié début mai Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre aux éditions du Cherche Midi. Alors dans ce livre, on découvre vos premiers reportages. Vous nous parlez des pygmées de Centrafrique, les deux guerres du Golfe, les printemps arabes, l'éclatement de l'URSS. Vous nous parlez de l'apartheid en Afrique. Vous revenez sur l'élection de Nelson Mandela. Martine Laroche-Joubert, vous revenez sur toutes vos missions, ces missions qui vous ont forgé, mais aussi vous parlez d'erreurs et de regrets dans ce livre.
Et tu livres dans ces reportages ce qu'on ne peut pas quand on filme, quand on tourne, montrer, c'est-à-dire ce qu'on voit, mais malheureusement à ce moment-là, il n'y a pas la caméra, ou alors c'est une confidence que quelqu'un te fait, ou c'est... et tu reviens là-dessus aussi.
Oui, par exemple, j'étais dans l'ex-Zaïre, qu'on appelle maintenant le Congo, et qui d'ailleurs s'appelait avant le Congo, et au Zaïre, je me souviens qu'on suivait ce qu'on avait appelé la route de l'enfer, c'est-à-dire qu'il y avait des réfugiés poursuivis par des rebelles qui mouraient de faim autour de nous, et c'est difficile de filmer ce genre de choses, et le caméraman... Roger Motte était à la bonne distance, je le voyais qui filmait comme ça, très, voilà, sans heurter, sans choquer. La caméra, c'est très intrusif, ouais, donc devant des gens qui meurent, il faut faire attention. Et moi, j'étais derrière lui et je ne pensais qu'à une seule chose, mais il faut témoigner, quand est-ce que je vais pouvoir monter, envoyer le sujet, tout ça. Et à côté de moi, j'ai vu un photographe qui allait chercher un bébé pour l'amener dans un poste de secours, tout petit, complètement démuni. Et là, je me suis dit, mais ça ne m'était même pas venu à l'esprit, à moi, de prendre ce bébé et de l'amener dans ce poste de secours. Et là, je me suis dit, bon ben voilà, je suis trop blindée, je suis... voilà, c'est pas bien, je trahis mon métier de journaliste. Il faut se blinder, mais pas trop. Et là, voilà, je raconte ça, parce que ça, ça me reste, c'est comme un remords, c'est comme un regret.
Alors Karl, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir les sons de nos tatas flingueuses du jour. Vous allez vous affronter, il va y avoir un match, il va y avoir des points, et quand l'une de vous deux sera en tête dans les scores, elle aura son jingle pendant toute l'émission, pendant près d'une heure. Alors pour vos sons, aujourd'hui, nous avons choisi deux ambassadeurs de la paix dans le monde. Pour vous, Anne Niva, ça sera ça. John Lennon.
Donnons une chance à la paix. Et pour Martine.
Ah bah un autre grand qui a chanté la paix aussi.
C'est bien aussi. Hein.
Et c'est Michael Jackson.
Eh ben ouais, c'est bien Karl.
Non, ça me gêne un peu.
Mais non.
Deux grandes reporters aujourd'hui s'affrontent autour de Karl Zéro. Elles sont les tontons, les tatas flingueuses.
Oui.
Anne Niva et Martine Laroche-Joubert. Attention, le jeu va commencer avec une interview spéciale James Bond. A tout de suite. Carl Zéro a réuni aujourd'hui, rien que pour vous, sur Europe 1, les deux plus grandes reporters de guerre. Et elles vont s'affronter en tout bien tout honneur. Anne Niva aujourd'hui face à Martine Laroche-Joubert. Oh
non, pas en tout bien tout honneur, elles vont se défoncer l'une l'autre, littéralement. Alors mes chères tata flingueuses, je savais que j'avais affaire à deux femmes de poigne, des femmes à poigne, deux journalistes qui n'ont pas froid aux yeux. Et en compulsant vos biographies respectives, j'ai découvert qu'à un moment donné de votre existence, vous avez toutes deux eu maille à partir avec les autorités russes et plus particulièrement le KGB, enfin le FSB. Toi, tata Martine, c'était parce que tu t'étais faite passer pour une employée de la SNCF.
Exactement. Je voulais faire un sujet sur les réfouzniks, c'est-à-dire ces juifs qui, du temps de l'URSS, donc, voulaient aller en Israël. Et quand ils demandaient leur visa de sortie, ils perdaient automatiquement leur travail. Et à ce moment-là, c'était interdit de ne pas avoir de travail en URSS, donc ils acceptaient n'importe quel emploi. Donc évidemment, pour faire ce genre de sujet, impossible d'avoir un visa officiel. Donc j'ai pris comme profession employée de la SNCF. Je me suis inscrite dans un groupe d'amitié France-URSS. Et je suis donc partie avec comme ça, plusieurs Françaises, touristes, et nous avons retrouvé à Leningrad, puisque c'était l'ancien nom de Saint-Pétersbourg. Et voilà, et c'était assez compliqué parce qu'il fallait évidemment que nous tournions ces réfugiés. Et on les tournait. On disait, oh non, allez voir l'Ermitage. Non, non, ça ne nous intéresse pas, la peinture. On préfère aller se promener dans les rues. Bon, la seule chose qu'il fallait absolument faire, c'est être à l'heure des repas. Enfin bref, on était dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. On était dans un camion en train d'interviewer un de ces réfouzniks.
Et là
on entend, madame, oh, j'étais en train de sortir du camion. Là, j'étais pétrifiée. On a été arrêtés donc, par la police.
Suivez-nous.
Voilà, exactement. On s'était dit, si jamais on est prise, on aura une phrase standard qui est « Je demandais mon chemin, je veux voir le consul de France ». C'est tout, une seule phrase. Donc, ils nous ont séparés. J'étais interrogée donc, par des hommes avec un manteau en cuir, tout ça, qui m'ont un peu menacée quand même de sévices physiques. Et à toutes les questions, je répondais « Je demandais mon chemin, nous étions perdus, je veux voir le consul de France ». J'enchaînais ça. C'était encore une époque où ils ne pouvaient pas lire ce qu'on avait fait dans la caméra. Vous voyez, ils nous l'avaient confisqué, mais ils ne pouvaient pas le lire. Et on a répété ça pendant des heures et des heures. Le réfouznik, il a répété aussi la même chose. Mais ça a duré très très longtemps. Finalement, ils ont appelé le consul de France. On a continué à mentir, même aussi, évidemment, devant le consul de France. Notre version, nous étions perdus. On a quand même réussi à rentrer à l'heure du repas. Mais ce qui a été très dur après, c'est de recommencer le reportage. Parce qu'on avait très peur qu'ils aient pu lire les cassettes. Ah. Chaque fois qu'on entendait taper à notre porte, on était terrorisés. Et finalement, on a recommencé le reportage. On est revenu en France. Et dans ce genre de situation, il faut vraiment, au cas où ils liraient les cassettes, suivre ce qui se passe en URSS, voir ce qu'étaient devenus tous ces hommes et toutes ces femmes que nous avions interviewés. Et finalement, 3 ou 4 ans plus tard, ils ont pu partir en Israël. Voilà, il faut toujours faire attention aux gens qu'on laisse derrière soi.
Et toi, tata Anne, on t'a carrément prise pour une agent secret. Tu as même disparu pendant une semaine de la circulation.
Oui, ça c'était en Tchétchénie. Je pensais que vous alliez faire allusion à une autre fois, parce qu'il y a eu plein de fois. Mais c'est un peu normal quand on fait ces métiers-là. Donc c'était quand même un drôle de moment où j'étais à 6h du matin, au crépuscule, à l'aube, pardon. Je suis réveillée, hein. À l'aube, dans cette maison, dans un village tchétchène. C'était pendant le ramadan, donc j'étais du côté des femmes, on venait de passer la nuit. Et du côté des hommes, j'entends une espèce de grand brouhaha, puis je vois des mecs arriver avec des kalachnikovs, masqués, tout en noir, sans sigle, sans rien sur l'uniforme. Je me demandais ce que c'était. Et j'avais un problème parce que j'étais arrivée là, bon, c'était en pleine guerre de la Tchétchénie, et j'avais un téléphone satellite avec moi qui était le seul moyen pour appeler ma rédaction, hein, parce qu'on peut être le meilleur journaliste du monde, mais si on n'a pas le moyen de parler avec sa rédaction, eh bien ça sert à rien. Et ce téléphone satellite, il était dans la pièce où ils étaient en train d'arriver, les mecs du FSB. Donc forcément, ça allait attirer leur regard, et ça n'a pas raté. Donc ils m'ont dit, comme j'étais habillée comme une femme tchétchène. Et avant que je me mette à leur parler, ils croyaient que j'étais une femme de la maison, tchétchène. Et puis moi, je me suis dit, je vais m'auto-dénoncer. Je me suis dit, c'est super, ça a peut-être marché et tout. J'ai été les voir en leur parlant en russe, en leur disant, je suis Anniva. Je leur ai montré mon passeport français. J'ai dit, je suis journaliste. Ils m'ont pas cru.
Ils m'ont pas cru du tout, parce qu'en fait, ils avaient des ordres, ils étaient tellement perplexes. Eux, en fait, ils venaient pas là pour moi. Ils venaient là pour faire une perquisition, parce que le mec chez qui j'étais, la famille était soupçonnée de tas de choses. Et donc, je les gênais, en fait, en étant ce problème supplémentaire. Alors ensuite, je vous la fais courte, ils sont partis avec le maître de maison qu'ils ont arrêté. Et moi, je suis restée là, et 24 heures plus tard, ils sont revenus. Avec des ordres qui étaient des ordres de m'arrêter. Parce que là, quand même, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient une bonne histoire.
Eh bien, je m'apprêtais à vous faire le quiz James Bond. Mais comme vous avez trop bien répondu, je ne le fais pas.
Europe 1. Jusqu'à 17h sur Europe 1, vous êtes bien avec Carl Zéro et ses deux tatas flingueuses aujourd'hui passionnantes, Anne Niva et Martine Laroche-Joubert. Le jeu va maintenant commencer. Le match va commencer entre nos deux tatas flingueuses avec un quiz spécial sondage. A tout de suite. Un casting de rêve aujourd'hui, un casting de luxe avec deux tatas flingueuses, les plus grandes reporters de guerre, Anne Niva et Martine Laroche-Joubert, aujourd'hui autour de Carl Zéro.
Alors Tata Anne, ton nouveau volet de ce magazine qui s'appelle « Dans quelle France on vit » sur RMC Story et qui sera diffusé ce soir à 20h55 s'appelle « Sexe vers de nouvelles libertés ». Dans ce magazine, tu es parti à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont accepté d'évoquer face caméra et à travers des témoignages sincères et émouvants leur rapport à l'amour mais aussi leur sexualité. J'imagine que tu as dû faire des découvertes étonnantes.
Par exemple, le polyamour.
Ah.
Ah oui,
j'ai été surprise. J'ai trouvé une petite jeune fille de 23 ans qui est ingénieure agro et qui est très amoureuse d'un jeune garçon qui a son âge, avec qui elle habite à Bourg-la-Reine.
Ah, déjà prédestiné.
Je pensais que ça allait te plaire, ce petit détail. Mais elle est également amoureuse d'un autre.
Non.
Si.
Qui vit à Bourg-la-Reine
pas loin.
Ah,
et en tout cas, mais les deux garçons sont au courant de l'existence d'un et de l'autre.
Mais du coup, c'est de la polygamie.
Et c'est assumé. Ça s'appelle du polyamour ou amour pluriel. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je rentre au domicile de cette jeune fille avec son ami qui s'appelle César et que je demande à César s'il se sent bien dans cette configuration.
Oui.
Et en fait, je sens que c'est moyen. Mais en même temps, il fait beaucoup d'efforts pour essayer de plaire à sa copine et pour jouer le jeu. Et puis ensuite, je fais une rencontre face caméra entre les deux garçons.
Oula.
Dans une pizzeria de Bourg-la-Reine.
Oula. Chaud d'ambiance.
Vous voyez, non, mais ce qui est intéressant, c'est la discussion entre eux trois. Cette espèce de déconstruction du couple de ces jeunes gens qui ont moins de 25 ans. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut montrer parce que ça prend une certaine ampleur.
Alors, je vais vous faire un quiz sur les Français et leur sexualité.
Aïe, aïe, aïe.
La première qui trouve la bonne réponse marque un point. Moi, je ne peux que répondre plus ou moins pour vous aider. Jingle. Voilà, c'est le jingle du juste prix.
Tout à fait.
Alors, quel est le pourcentage, mes chers tatas, de Françaises et de Français ayant eu plus de 10 partenaires au cours de leur vie?
Oh, pas beaucoup. Hein.
8%?
8% pour Martine.
Martine dit 8. 6%.
6%. Comme c'est Martine qui est le plus proche des 21%.
Ah, quand même, on était quand même un peu
vous vivez en 1942. Je vous félicite. Bravo. C'est 21%.
C'est bien, tant mieux.
Quel est le pourcentage de Françaises et de Français ayant plus de 3 rapports par semaine? Marcel Amont, qui a été notre invité hier.
On peut pas avoir des cases à cocher avec des possibilités plutôt qu'une question ouverte?
Non, ouverte. Nous sommes très ouvertes.
Alors,
ici.
Alors, oui.
10%.
Martine dit
10%.
10%. 10% pour Martine.
Martine est forte, hein, moi je ne sais pas. 8%.
Bonne réponse de Martine, 10%.
Bravo! Trop forte.
Ah, si t'es dehors comme ça, tu t'y connais, Martine. Hein. Combien de Français se déclarent satisfaits de leur vie sexuelle?
Encore un pourcentage.
Ouais.
C'est que des pourcentages. Le juste prix, pourcentage, chiffre.
Oui, j'aime pas les chiffres, moi, c'est pour ça.
Mais alors, les gens,
ça dépend.
Les gens
qui se déclarent satisfaits, oui. Alors,
les gens racontent des salades.
Bon, 50%.
50%, Martine? Martine, réfléchis.
55%.
55%, tu te rapproches des 72%.
Voilà.
Ils sont très heureux de leur vie sexuelle.
Voilà. Ils disent, mais en fait 50%, oui, c'est trop peu.
Combien de Français ont déjà eu une expérience à 3? Je ne parle pas de la ville située dans l'Aube.
Oh bah bravo.
Et qui figure cependant dans mon inédit de ce soir.
Mais bien
nous
sûr.
Sommes allés filmer à 3.
Bien sûr. Combien là... À 3. Qui... Allez.
Donc.
Allez.
15%.
Pas mal.
12%.
C'est Anne Niva qui marque le point, ah, c'est 16%.
16%.
16% à 3. En moyenne, combien de partenaires différents a eu une Française dans sa vie ?
Donc une femme, on ne parle pas d'un homme.
Non.
Une femme.
Là, on est sur les Françaises.
Combien elle a eu d'amants ?
7.
7 pour Martine.
Sur toute une vie ?
Sur toute une vie. Comment ça, 609 ?
Non, mais une femme française, une femme française. Standard, combien elle avouerait avoir eu
des... Oui, oui. Ben oui, ben oui.
Tu as dit combien ?
7. Moi, j'ai dit 7. 7.
8.
8. Ah, vous êtes très, très serré. Et la bonne réponse, c'est Martine, 7.
Bravo.
C'est le chiffre exact.
Bravo.
Parlons des Français maintenant. Combien de femmes un homme français moyen dit-il avoir eu dans sa vie ?
Plus, là, plus. Forcément, plus. Un homme va dire plus.
C'est coup de ganache, il dit. Donc, il monte dans les tours, mais on sait bien que...
Mais pas tellement plus, peut-être.
Il dira, 12. Je sais pas, un peu plus, peut-être. Ils sont tellement vantards.
Ils sont vantards, 12.
25.
Combien ? 25.
Oui.
25.
Ah oui.
Et non, c'est Anne Niva qui marque le point, c'est 13.
Ah. Pas si vantard que ça, alors.
Quel est le pourcentage de Françaises qui se sont inscrites sur un site de rencontre ?
Ouais.
Du style Tinder, ouais. Où la pauvre Mythique. Anissa passe ses nuits.
Absolument.
Ah, n'oubliez pas que j'en parle,
faites gueule. Non, vous pouvez, mais bon. Mais ce soir, dans mon documentaire, des femmes, face caméra, admettent. Ah bah ouais. Quelle est la honte ?
Non, il n'y en a pas. Honte, bien sûr.
Bon, 50%.
Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, moi.
Moi, je dis.
50%.
Moi, je dirais plutôt... Moi, je dirais plutôt 25%.
25% pour Martine. Bonne réponse, c'est 19%. 50% Anne.
Non, mais oui, si.
Mais
pourquoi pas.
Non mais enfin, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vraiment les nouvelles libertés sexuelles. J'en perds mes mots, Anissa, le bilan.
Et bien sur cette manche spéciale sondage sexe, c'est Martine Laroche-Joubert qui est en
loin.
Tête
wow.
Face à Anne Niva.
De loin.
Et voilà, l'occasion de réentendre notre ami, enfin notre ami, ce pauvre Michael Jackson. Tu sais, c'est un quiz, hein, c'est sérieux, c'est des pourcentages, c'est pas tes fantasmes. Hein.
C'est terrible, c'est terrible.
Tu t'es lâché, là, je comprends pas. Bah.
Jusqu'à 17h sur Europe 1.
Moi, je voudrais les sources.
Ce sont deux grandes reporters qui s'affrontent aujourd'hui. Anne Niva et Martine Laroche-Joubert sont les tatas flingueuses de Carl Véro. Le jeu continue dans un instant avec un quiz, un vrai ou un fox. Là aussi, ça va être très serré entre nos journalistes. Et puis, on va s'écouter de la musique. Imagine Dragons à venir sur Europe 1. Il est bien entouré aujourd'hui, Carl Véro. Jusqu'à 17h, deux tatas flingueuses dignes de ce nom aujourd'hui s'affrontent. Les journalistes Anne Niva et Martine Laroche-Joubert. Oh,
mes chers tatas, j'ai des chiffres alarmants pour vous. Près de 9 personnes sur 10, 86% dans le monde, ont cru ou croient à une fausse nouvelle, les fameuses infox. Vu la plupart du temps sur des réseaux sociaux. Peut-être un peu plus rassurant, le chiffre retombe à 38% quand il s'agit de la France. C'est quand même beaucoup. Mes chers tatas flingueuses, les plus hautes instances du journalisme m'ont chargé du renouvellement annuel de vos cartes de presse. Je vais donc mettre votre sagacité légendaire à rude épreuve en vous soumettant à une farandole d'informations avec ce quiz « Un vrai, un fox ». Ganesh.
En Israël, un homme a braqué deux banques en 5 jours à l'aide d'une grenade et il est reparti avec plusieurs milliers de dollars. Quand il s'est fait arrêter, les policiers ont découvert que sa grenade était en fait un avocat qu'il avait pris soin de peindre avec application pour imiter l'explosif.
Alors, vrai ou faux ?
Pour moi, c'est vrai.
Moi, je dirais que c'est vrai.
Bonne réponse de mes tatas. Bravo. Anissa nous emmène au Canada.
Oui, au Canada, où McDo avait promis d'offrir des frites à ses clients de l'Ontario chaque fois que les Raptors, c'est une équipe de basket là-bas sur place, marquaient plus de 12 paniers à 3 points par match. Sauf que les Raptors ont réussi cet exploit à 54 reprises. Ça a donc coûté 6 millions de dollars à McDonald's. Est-ce que c'est une info ou une intox ?
Intox ?
À mon avis aussi une intox.
Mais non.
C'est vrai ?
C'est une info.
Mais vous êtes des petites bulles.
Oh, pas si.
Là, là, là.
Je suis désolé, c'est vrai, c'est vrai. McDo s'en souvient encore.
Ah oui, ça j'imagine.
Le clown a pleuré. Ganesh.
Il y a quelques mois, Charles Jackson Jr., retraité américain, emmène sa petite fille au resto vietnamien. Au dessert, la petite découvre dans son Fortune Cookie, ces petits biscuits qui vous délivrent votre avenir dans un bout de papier, elle découvre donc une suite de numéros. Papy décide de les jouer inlassablement au loto. Il y a quelques jours, les numéros sont sortis et il a décroché 334,6 millions de dollars. Vrai ou faux ?
Une somme incroyable.
Dans quel pays ?
Aux États-Unis.
Oh là là.
Je dirais que c'est faux.
Tu dirais que c'est faux.
Moi, je suis comme Anne, c'est faux. Voilà. Tout ce que vous racontez, c'est faux.
Voilà, exactement. Exactement.
Vous êtes des toutes petites buses. Des bébuses. Vous avez perdu, c'était vrai.
Mais vous nous mettez que des infos vraies.
Oui,
mais
non, pas forcément.
On n'était pas là, on couvrait une guerre.
Voilà. On pas les exactement, on avait d'autres soucis.
On avait d'autres soucis.
D'autres soucis en tête.
Oui.
Très bien. Anissa.
Une marque française vient tout juste de lancer un parfum qui sent le sexe.
Oh.
Celui-ci répond au doux nom de Sécrétion Magnifique, une fragrance qui sent bon, selon son concepteur, bien sûr, le sang, la sueur, les sécrétions et la salive.
C'est accablant. Est-ce que ça peut être vrai ?
C'est pas une mauvaise idée, hein ?
La femme d'affaires se réveille.
Femme d'affaires.
J'aurais dû avoir cette idée.
Alors moi, je dis c'est vrai. Ça parfum de niche, mais bon.
Oui. Non, c'est de l'intox.
Sécrétion magnifique. Pour nous, oui. Les hommes.
Ah donc c'est un parfum pour...
Pour tout le monde.
Pour hommes.
Je ne quitterai plus cette voie.
C'est formidable.
C'est vrai.
Oh là là, donc c'est vrai.
Bravo, et ceux Martin. Et celles qui l'ont senti disent qu'il est, je cite, particulièrement agréable, mais très intrigant, cuivré, musqué et complexe.
Oui, on aurait bien voulu que vous nous l'apportiez pour qu'on puisse le sentir.
Eh bien, ça sera ton cadeau si jamais voilà. Tu gagnes. Ganesh, un dernier, allez.
À l'occasion de l'opération Paris-Plage 2019, la mairie de Paris s'apprête à lancer une grande opération Pédalib. Elle va en effet mettre à disposition des estivants toute une flotte de pédalos en libre service. Limitée à 30 minutes, leur utilisation se fera uniquement sur le canal de l'Ourcq, bassin non fréquenté par les bateaux-mouches.
Oui, bon, ça me semble plausible.
Ça sent bien le Anne Hidalgo. Hein.
C'est toi qui le dis.
Encore une idée à la con.
C'est toi qui le dis, mais je pense que c'est tout à fait vrai.
Vous êtes des énormes buses. C'était faux. Anissa, le bilan.
Mais il faut lui souffler, non, mais ça peut lui donner l'idée. Ça peut lui donner l'idée.
Mais je sais qu'elle nous les écoutait. On l'embrasse.
Voilà. Sur ce quiz spécial info ou intox, nous avons une égalité entre nos journalistes aujourd'hui. Anniva et Martine.
Je me rattrape un peu.
Et t'auras le parfum.
Pendant encore quelques minutes, jusqu'à 17h, nous sommes bien sur Europe 1 avec Carl Zéro et ses Tata Flingueuses Anniva et Martine Laroche-Joubert. Le jeu continue dans un instant avec un quiz spécial Mec 2. A tout de suite. Carl Zéro s'est entouré des plus grandes aujourd'hui pour ce combat, ce match entre deux grandes journalistes reporters de guerre. Les Tata Flingueuses du jour sont Anniva et Martine Laroche-Joubert.
Tata Martine, Tata Anne, vous détestez toutes les deux être réduites à votre seule condition de femme, et encore plus de femme d'eux. Oui, sur le terrain, vous êtes légales des hommes, évidemment, et vous ne vous interdisez aucune mission. Eh bien donc, voici le quiz Mec 2.
C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non ? Non, dites-le, parce que quand les gens la connaissent, ça prend l'air d'un con.
Je vais vous donner le descriptif d'un mari d'eux qui vous permettra de retrouver qui est sa célèbre femme. C'est d'ailleurs avant tout à elle qu'on va s'intéresser. Je vous donne un exemple, Anissa.
Il n'existe pas, on ne l'a jamais vu, et pour cause, sa femme était pucelle et elle a fini en barbecue. C'est le mec de...
De Jeanne d'Arc.
Ah d'accord, des trucs historiques et
ouais,
tout.
Il y a de tout.
Tous les
domaines. Il y a de tout.
Il était avec une des plus grandes écrivaines du XXe siècle. Il devait certainement nettoyer les voitures de sport qu'elle adorait et a dû tomber amoureux du charmant petit monstre.
Ouais, François Sagan.
Bonne réponse.
Ça, c'est les voitures de sport, hein, tout de suite, oui. Qui nous a mis sur la voie.
Il l'a épousée au début du XXe siècle. Elle était née en Pologne. Il a travaillé avec elle, mais il se dit que c'était elle la plus compétente.
Marie Curie.
Bravo.
Là, moi, de toute façon, j'en trouverai pas. Lui.
Si, tu vas en trouver.
Ah non.
Il a épousé une femme incroyable au destin unique. Il a accepté d'être un peu dans l'ombre de cette grande dame, une dame comme on n'en fait plus, une dame qui pouvait fumer des clopes avec Chirac et libérer les femmes en même temps. Elle lui a fait une place au Panthéon.
Simone Veil.
Il fut roi. Et pourtant, on se souvient surtout d'elle. Certains disent qu'elle fut plus importante que lui. Lui voulait prendre l'Italie. Elle voulait surtout la paix, mais il ne fallait pas l'énerver. Et quand elle est vénère, bon ben, ça finit en massacre. En massacre de la Saint-Barthélemy. C'était
Catherine
le mari
Médicis.
De... Ouais. Catherine de Médicis. Ouais.
Bravo Martine.
Et le dernier, qui c'est qui s'y colle? Allez Anissa, hop.
Il a épousé une femme lettrée et intelligente, mais ne se doutait pas qu'il allait épouser une des plus grandes écrivaines de l'histoire et aussi une des premières féministes. Lui fut avocat, et ça doit pas être simple quand ta femme a un prénom d'homme.
Il était le mari de...
Prénom d'homme.
Je vais vous dire son nom, il s'appelait Casimir Dudevant, ça aide?
Ah, Georges Sand.
Bien.
Oh bah dis donc.
Oh bah dis donc.
Bravo.
Martine, t'as démarré Diesel, mais là, ça y va.
Quelle concentration.
Est-ce que j'ai mon bac là ou pas?
Pas encore. Pas encore, il reste une partie. Je suis désolé, on enchaîne.
En tout cas, sur cette manche, Martine Laroche-Joubert, vous êtes en tête face à Anne-Niva. Alors pour savoir qui va gagner ce match entre Anne-Niva et Martine Laroche-Joubert, restez avec nous, tout va se jouer dans un instant avec la dernière manche de ce jeu. Et on va jouer en musique, c'est une tradition.
Ah oui,
avec
le blind test.
Un blind test spécial journaliste. Puis tiens, de la musique, il y en a qui arrivent sur Europe 1 aussi. Clara Luciani, La Grenade à venir. Jusqu'à 17h pendant encore quelques minutes, Carl Zéro vous a réservé un casting de luxe aujourd'hui. Deux grandes reporters, deux grandes journalistes sont les tatas flingueuses du jour, Anne-Niva et Martine Laroche-Joubert.
Eh oui, des références en matière de journalisme. Alors puisque, mes chers tatas, le reportage est votre religion, que l'amour de l'information coule dans vos veines, nous voici amenés à conclure en musique, logiquement, avec des chansons qui parlent de la presse. C'est le Blind Test, playlist de journalistes. J'attends de vous l'interprète et, dans le meilleur des cas, le titre de la chanson ou de presse qui en découle. Premier extrait.
Et c'est Edith Piaf, hein.
Moi, je crois que je vais me taire pendant toute l'émission.
C'est clair. Edith Piaf.
Enfin, tu connais Edith Piaf, Anne.
Oui, oui, je te rassure.
Après, t'as pas dit Edith Piaf.
Parce que Martine va beaucoup plus vite.
C'est bon, le titre de la chanson?
Ah non, j'ai pas le titre.
Le kiosque en chanson, faut
voilà,
dire, c'est pas hyper connu.
Non, ouais, non.
Alors, deuxième chanson, il s'agit d'un chanteur un peu plus jeune qu'Edith Piaf, mais pas tant que ça, mais quand même.
Journalistes aigris, pervers ou jalousies, que vous n'appréciez pas, cela est votre droit, dites le simple.
Bon, réponse.
Ah, ça, je peux vous dire que je sais pas comment j'ai fait.
Ah, tu vois, il était venu naturellement. Oui. Florent Pagny. Et le titre.
Ah non,
célèbre.
Le titre hors de question.
Mais si, presse qui?
Qui fait chier.
Oui, ça voulait dire ça. Attention, ça, c'est un gros garçon très connu.
Tu rêvais d'obtenir le Grand Prix Pulitzer.
Oui, je connais. Eddie Mitchell, mais
oui,
bien sûr.
Mais pourquoi vous avez dit gros garçon?
Oui, ça m'a aussi induit en erreur.
Pour vous enduire d'erreur.
Ouais, non, mais ça, c'est nul, ça.
Bah oui, c'est pas sympa. Bah,
j'ai le droit d'être chafouin.
Oh non, mais ça, c'est nul. Gros garçon.
Bah, c'est vrai qu'il est bien en chair, quand même.
Mais non, pas du tout.
Franchement,
non,
pas du tout.
C'est pas du tout son image.
Eddie Mitchell est athlétique.
Non, mais il est mince.
Il est mince.
Oui.
Eddie Mitchell est mince.
Oui.
Ça fait au moins 40 ans qu'il est plus mince. Bon, la suivante.
Oh là là. 7 janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis chargé.
Alors comment il s'appelle?
Les artisans de la liberté.
Il est grand.
Encore malade.
Oh, quand même. Oh.
Quand même.
Ça, c'est très, 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 très facile. Écoutez bien.
Let's spend the night together. Now I need you more.
C'est les Rolling Stones.
Let's spend the night together.
Bonne réponse.
De Martine.
Mais quel rapport avec la presse?
Ça m'a troublé aussi, hein, excusez-moi.
Quel rapport avec la presse? À toi de me le dire, Martine. Fais appel à ta mémoire.
Attends,
le titre de la chanson, Martine.
Tu l'as raconté.
Oui.
Dans le Figaro.
Chez Castel.
Ah oui, Mick Jagger.
Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là?
Écoute, il n'a pas chanté en tout cas.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Non, il m'a invité. On a dansé chez Castel il y a très longtemps. Avec Mick Jagger.
C'est sympa ça.
Ouais, ouais. Mais j'étais mariée et tout.
Il y avait Patrick
voilà.
Qui était là.
Il y avait Patrick.
Et il faisait un peu la gueule, Patrick.
Exactement, Patrick, c'était mon mari. Ah, ouais. Voilà. Et Mick Jagger lui a dit, écoute, si tu veux la garder, laisse-la libre.
Oh, quelle bonne phrase. Magnifique. Il avait raison.
Et incroyable, voilà. Et tu nous avais caché ça. Allez, un dernier, attention.
jingle de JT.
Et bah c'est ça.
C'est un jingle de JT.
Mais lequel ?
Celui de qui ? D'une star des années 70.
Oh, je sais pas.
Début 80. Le journaliste que le monde entier nous enviait.
À 13h ?
À 13h.
À 13h.
Alors, Marie-Laure.
Eh oui, ah oui, oui, Yves Rossi.
Alors, Marie-Laure,
c'était
le bilan.
C'était son jingle. Ouais, c'est
Anissa,
ça m'a
avec nous, Anissa, bien sûr, le bilan.
Alors, je compte les points. Sur ce blind test, c'est Aniva qui finit en tête face à Martine Laroche-Joubert.
Tu reviens de loin. Hein.
Mais sur l'ensemble du match, oui, aujourd'hui, c'est la France d'en haut qui l'emporte et c'est Martine Laroche-Joubert qui gagne ce match.
On la félicite.
J'en profite pour vous rappeler l'actualité de notre grande gagnante du jour, Martine Laroche-Joubert. Vous venez de sortir un livre, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre. Il est sorti fin mai aux éditions du Cherche Midi. Vous nous racontez tout, vos rencontres avec les pygmées de Centrafrique jusqu'aux deux guerres du Golfe. Vous parlez même de vos erreurs, de vos regrets de reporter. Notez ce livre qu'il faut absolument lire, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre.
Bah, il manque un chapitre, c'est sa venue à Europe 1.
Bien sûr.
Avec les questions,
le
sans doute.
C'est tome 2.
Ça fera l'objet d'un livre entier.
L'épilogue.
Et ce soir, on sera tous sur RMC Story à 20h55 pour découvrir le quatrième numéro de Dans quelle France on vit, avec Aniva évidemment, un numéro consacré au sexe et aux nouvelles libertés avec un point d'interrogation, une thématique taboue mais très enrichissante.
C'est merveilleux, je peux te dire que je vais regarder ça de
j'en
près
suis
Anissa.
Sûre.
Il me reste à remercier mes deux tatas flingueuses sous vos applaudissements.
On est épuisé, hein.
Aniva, merci. Martine Laroche-Joubert. Il me reste également à me tourner vers la Rose des Sables, Anissa, pour lui demander, mais qui on aura demain ?
Eh bien, Karl, demain, nous aurons deux comédiens comme Tonton Flingueur, Frédéric Chaud et Noum Diawara. Europe 1.